Bonjour à tous. On va commencer par se présenter. Mehdi, si tu veux. Alors, je ne suis pas sûr, je crois que si tu appuies, du coup.
C'est bon là. Ah bon ? Ah, c'est un seul. Ah, d'accord. Je voulais prendre la parole, absolument.
Je prends la parole, très bien.
Sinon, il y a. Oui, donc en tout cas, je suis Mehdi Kamassi, chercheur au CNRS en sciences cognitives. Et voilà, je co-anime le cours de démarche scientifique et esprit critique à la Sorbonne Université avec Frédéric Descrins.
Voilà, donc je vais prendre la parole parce qu'on avait convenu que je commençais cette présentation. Donc Frédéric Descrins, moi je suis physicien à Sorbonne Université. Et l'idée ici est de vous présenter quelque chose qui, un enseignement en fait, qui existe depuis une dizaine d'années, qui a beaucoup évolué. Et d'une manière assez assez pragmatique, quoi. Je veux dire, pourquoi on a fait ça, dans quel contexte, quels objectifs on s'était fixés, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, et finalement, à la fin, essayer de faire un petit retour d'expérience pour vous dire si on en est content, si ça fonctionne ou pas, etc. Cet enseignement, comme vous le savez, à travers le titre, concerne la démarche scientifique et l'esprit critique, qui sont des mots qu'on entend beaucoup. En ce moment, ce n'était pas le cas il y a une dizaine d'années, justement, quand on a commencé à en parler, mais tout de suite, les étudiants ont été très intéressés. Et une des manières de les intéresser, c'est aussi l'intérêt de cet enseignement, c'est de leur tendre la main. Et on essaye de leur parler de choses, on va dire, d'une part, qui sont en mesure de comprendre. Ils sont en première année de licence, hein, ils sortent du bac. Donc avec un vocabulaire simple, ce qui ne signifie pas forcément la simplicité des concepts qu'il y a derrière ou de la pensée qu'il y a derrière. On essaye aussi de leur tendre la main en fonction de leur culture, leur manière de voir les choses, d'appréhender le monde. C'est pour ça que, par exemple, je commence toujours mon cours avec cette image qui est donc un pochoir de Banksy qui a été fait dans les années 90 à Londres et que j'aime beaucoup en fait parce qu'il traduit aussi un peu la philosophie de cet enseignement. D'abord, l'art urbain, le street art, ça parle à nos étudiants, on leur tend la main par rapport à ça. C'est un art qui est ouvert au monde, à tout le monde, gratuitement. Donc il y a l'idée de partage, il y a l'idée bien sûr qu'à travers ce qui est représenté, Albert Einstein qui tague la fameuse relation entre l'énergie et la masse, qu'on va parler de science, on va parler de culture, on va parler de culture scientifique, et puis on va le faire dans un cadre donc, de temporalité, hein. L'art urbain, on le sait, c'est un art qui est voué à disparaître par l'érosion, par le recouvrement d'un autre artiste qui va venir effacer tout ça. Et puis aussi dans le cadre de l'irrévérence, ça c'est quelque chose d'assez important, le street art, faire des choses de ce type-là, c'est interdit par la loi, mais dans un cadre spécifique, il peut être intéressant parfois de désobéir. Et ce cadre spécifique de désobéissance, on va leur en parler dans un enseignement de sciences, puisqu'il s'agit donc d'étudiants scientifiques. Alors, pour vous dire, quand on a conçu cet enseignement, on a commencé par se dire qu'est-ce qu'on aimerait bien éviter, qu'est-ce que finalement, en tant qu'enseignant-chercheur, fait qu'on n'est pas très très heureux de faire parfois ce que l'on est soit obligé de faire ou ce que l'on fait par habitude, par éducation. Alors, du point de vue des étudiants, on va se placer de différents points de vue. Ce qu'on voulait éviter, c'est qu'un enseignement, ça soit un exercice à vide. Pourquoi on étudie ? Pour avoir la moyenne. Pourquoi on veut avoir la moyenne ? Pour avoir l'unité d'enseignement. Pourquoi ? Pour faire plaisir aux parents, à l'enseignant, etc. Tout ça, on sait évidemment que ce ne sont pas forcément des motivations les plus intéressantes pour poursuivre sur le long terme des études de plus en plus difficiles, ou en tout cas de plus en plus exigeantes. On s'est rendu compte parfois d'une certaine passivité vis-à-vis de ce que l'on pouvait leur apprendre aux étudiants, un manque d'étonnement ou de curiosité. Ce n'est pas général, mais on se rendait compte malgré tout qu'on ramait un peu dès qu'on leur parlait de quelque chose qui nous excite un petit peu. On avait en face de nous des gens qui n'étaient pas forcément réactifs. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables d'étonnement, qu'ils ne sont pas capables de curiosité. Ça veut dire peut-être que nous, on n'est pas capable de leur transmettre ça. On y reviendra du point de vue de l'enseignant. Une vision assez peu critique vis-à-vis des connaissances et des épistémologies rencontrées. Ça, c'est très clair. Rien que l'épistémologie, le mot, 99% des étudiants en première année de sciences ne savent pas ce que ça veut dire. La connaissance qu'ils ont acquise, dans un cadre dans l'enseignement de lycée, en particulier en sciences, la vision critique, on ne voit pas pourquoi, qu'est-ce que ça viendrait faire là-dedans, dans la mesure où tout ce que l'on vous a enseigné jusqu'à présent est de l'ordre du dogme, ce sont des lois. Un manque de recul par rapport aux compétences acquises, ça c'est très clair. Pourquoi on est là? Pour acquérir des connaissances dans un but professionnalisant. C'est là encore, c'est vrai, et c'est important. Mais s'en tenir à ça, c'est peut-être limiter ses motivations et donc limiter sa capacité à faire des études de haut niveau, longues, ou des études dans un cadre de plaisir aussi. Et enfin, une méconnaissance des structures et des missions de l'université. Ça, c'est plus spécifique, évidemment, à l'université, à l'enseignement à l'université. Ce sont des enseignants-chercheurs que vous avez en face de vous quand vous êtes étudiant. La plupart n'ont pas forcément conscience, qui sont dans un lieu où on transmet, bien sûr, la connaissance, mais aussi on la produit. Et le fait d'être à la fois enseignant et chercheur peut créer des choses positives dans la manière dont on va enseigner, mais aussi des biais. Je vais en reparler tout à l'heure. Et c'est important de bien définir ce cadre, le paysage, je dirais, aux étudiants. Et dans aucun des enseignements que l'on propose à l'université, on ne leur parle de l'université elle-même, de l'histoire de l'université, de qu'est-ce qu'on y fait, de comment on y fait, de comment c'est structuré. Ils n'en savent rien. Ils sont dans un lieu qu'ils ne connaissent pas. Alors, de notre point de vue, en tout cas du mien, on va dire, enseignant-chercheur. Dès le début, en fait, moi, je n'ai pas eu de formation en éducation, en quoi que ce soit. J'étais chercheur, en gros, en thèse, en post-doc, et puis on m'a lancé tout d'un coup, maintenant tu es enseignant, entre autres. Donc, au début, j'ai fait comme on m'a dit de faire, ou comme j'avais été éduqué, c'est-à-dire que j'ai raconté ma petite histoire, ma petite vision des sciences. Je n'avais pas de parole active avec les étudiants, parce que j'étais aussi un petit peu stressé, je n'avais pas très envie de ça, et puis parce que je n'avais pas conscience aussi de ce que je faisais. Et finalement, je m'ennuyais, voire parfois, je pouvais donner un cours où, en face de moi, j'avais des étudiants qui dormaient, mais moi aussi, je dormais quelque part. J'étais dans un mode un petit peu mécanique, et très vite, on voit qu'on s'ennuie, très vite, on n'est pas heureux. Donc, comment faire pour changer ça? Les objectifs, pas forcément adaptés au devenir ou ceux des étudiants, sur en particulier les raisons pour lesquelles on peut, apprendre à résoudre une équation différentielle. Les étudiants, légitimement, ils peuvent nous poser cette question-là. Si on leur répond que c'est pour, là encore, réussir son unité d'enseignement et obtenir ses crédits, ce n'est pas la bonne réponse. Derrière, il y a toute une structure de pensée qui est acquise et donc des compétences, là encore, qui peuvent être intéressantes. Et enfin, un conservatisme dans l'exercice pédagogique, on y a tous eu droit, cours, TD, TP, l'amphithéâtre, etc., etc. Alors, du point de vue de Mehdi, le chercheur, de l'art de persuader, quand je dis Mehdi, je dis nous tous, hein, chercheurs, enseignants, chercheurs, du point de vue des structures et des tutelles, on est évalué dans le cadre de la recherche, quelque part sur notre production et notre art de persuader. Ça, c'est quelque chose donc, qui fait partie de notre biais de fonctionnement, et y compris dans le cadre de l'enseignement. On a toujours tendance à vouloir persuader l'étudiant que l'enseignement que l'on fait, c'est le meilleur, que ce que l'on apprend, c'est comme ça, c'est la loi, c'est le dogme, etc. Et c'est pas facile de sortir de ça. Du point de vue recherche et société, y a les conflits d'intérêts, les Monsanto Papers, on en a entendu parler, les absences de critères de validation exposés au contrôle instruit de quiconque, c'est-à-dire, par exemple, dans le cadre de la recherche, d'une manière de faire un petit peu biaisée pour pouvoir produire, non pas de la connaissance, mais un peu de l'entropie, ou encore dans un cadre plus général d'absence de vulgarisation de communication des connaissances qui sont produites. Et enfin, la dernière chose que l'on voulait éviter, finalement, en fait, c'est aussi proposer un enseignement qui, d'un point de vue du citoyen, n'est pas forcément un bénéfice direct. Quand je dis du point de vue du citoyen, c'est justement là on revient à des enseignements qui sont purement professionnalisants. Bien non, je pense que, et on est nombreux ici bien sûr à le penser, que vivre dans une société où les gens sont instruits, au-delà de leurs connaissances professionnelles, a un bénéfice pour tous. Et évidemment, c'est une des missions de l'éducation publique que de produire ce type de compétences et de connaissances. Et enfin, du point de vue des étudiants qui seront de futurs citoyens, comme on l'a écrit dans le titre, il est clair qu'aujourd'hui, obtenir, acquérir des outils d'autodéfense intellectuelle face aux technologies, aux croyances, aux fake news, doctrines et autres idéologies est très importante. Voilà, donc ça côté un petit peu, on va dire, presque négatif. On se dit, oh là là, c'est noir. Ben non, c'est pas noir parce qu'il y a plein de il y a un contexte aussi qui est très positif, il y a plein de possibilités aussi d'agir aujourd'hui, tout simplement parce que les étudiants, ils sont en demande de ça. Et nous, nos étudiants, je peux vous assurer que dès les 2-3 heures de cours qu'on commence, ils ont des yeux comme ça, ils n'arrêtent pas de poser des questions, ils interagissent, on sent que tout d'un coup, ils se libèrent. Et nous, on est très heureux de ça. On pense que du point de vue du contexte, c'est possible. Ce sont des étudiants qui s'adaptent très facilement, ils sont habitués aux innovations, évidemment, technologiques, aux interactions, au travail de groupe. Ils sont ouverts à l'extérieur, la plupart ont une mobilité internationale assez importante dès le plus jeune âge. Donc tout ça, ça crée des choses positives. Au sein de l'université, on nous incite aujourd'hui, et c'est assez nouveau, à développer de nouvelles pédagogies, à créer des interdisciplinarités dans nos enseignements. Et enfin, du point de vue de la société, on sent, et puis ben là, ça en fait partie aujourd'hui, qu'il y a des choses qui commencent à bouger, les gens commencent à se regrouper dans des amphithéâtres, par exemple, pour discuter de la manière dont on pourrait réfléchir sur une pensée rationnelle. Voilà, peut-être que Mehdi, je te laisse continuer.
Oui, je continue. Alors, donc après, quelques objectifs généraux qu'on avait avec cet enseignement. Donc, évidemment, pour nous, donner du sens à l'enseignement des sciences pour recréer du lien par l'acquisition, l'échange et la transmission des savoirs, et avec vraiment cette idée que les étudiants qui sont présents en face de nous sont dans un processus actif. Et en fait, ce cours, dans sa forme actuelle, il participe d'une unité d'enseignement qui s'appelle Atelier de recherche encadré. Et l'objectif pour nous, c'est aussi d'amener les étudiants à être dans leur propre recherche sur un sujet. Et on les accompagne, on les aide à évaluer, on va y revenir à la fiabilité des sources, à croiser des informations, à faire leur propre recherche et à ne pas rester en superficialité, à juste aller chercher des infos sur Wikipédia. Mais quelque part, de comprendre que... ils sont là aussi avec deux enseignants-chercheurs qui viennent de deux disciplines différentes, avec des langages différents, qui parfois ne voient pas les choses de la même façon et peut-être parfois même sont en contradiction. Mais que eux, et donc c'est comme ça que la connaissance se produit et qu'eux doivent être dans cette démarche active à essayer de nous convaincre et à acquérir leur propre vision des choses ou compréhension en tout cas d'un sujet. Et donc ça participe d'un apprentissage à la démarche scientifique avec des exemples concrets de travaux scientifiques et de leurs controverses au cours du temps, donc la dimension temporelle de la connaissance scientifique, réfutabilité des concepts mis en jeu, fonctionnement paradigmatique. Donc il y a toute une première partie du cours qui est donnée par Frédéric, je crois que tu vas en reparler juste un peu après, avec une dimension, déjà une initiation à l'épistémologie, mais aussi une dimension histoire des sciences. Et une volonté de développer cette aptitude à la critique épistémologique, sur l'élaboration et la transmission d'un savoir scientifique. Donc, très important pour nous que ces étudiants arrivent à comprendre et à déceler des formes douteuses de discours pseudo-argumentatifs, propagande, sophisme, déceler les conflits d'intérêts sans les rejeter, estimer la fiabilité des sources qui parlent. Et en fait, là, pour nous, il y a un double objectif qui est que... d'une part, de comprendre aussi quel rôle peuvent jouer des connaissances scientifiques et puis une expertise scientifique, voire une démarche scientifique dans la société elle-même. Donc, en tant que citoyen, comment dans ce discours ambiant, énormément de points de vue et autres, des discours d'experts, savoir évaluer la fiabilité d'une information, comprendre qu'est-ce que ça veut dire être expert, est-ce que expert de quelque chose de particulier, expert de tout, quels sont les conflits d'intérêts derrière qui peuvent éventuellement pas être déclarés, comprendre une situation par exemple où quelqu'un ne va pas outrepasser son domaine, parle bien de son domaine, mais va relayer une information qui est sa vision des choses, qui ne fait pas consensus dans sa communauté, ce qui n'est pas forcément un problème si c'est dit de façon transparente, mais donc comprendre tous ces éléments-là, mais aussi parce qu'une partie de ces étudiants peut-être vont être amenés à eux-mêmes devenir enseignants-chercheurs plus tard, donc de comprendre cette mission et en amont, pendant leur formation, de comprendre qu'ils auront à se poser ces questions sur eux-mêmes quelles peuvent être l'expertise qu'ils peuvent jouer, quelle est la contribution qu'ils peuvent faire à des débats sociétaux. Et tous les exemples qu'on leur présente de conflits d'intérêts ou même de fraude et autres, pour nous, il y a une dimension très importante de comprendre qu'il n'y a pas juste un côté binaire entre certains méchants chercheurs qui vont tricher, qui vont cacher leurs conflits d'intérêts, et puis d'autres qui sont très gentils et tout se passe bien. Et qu'en fait, il y a toute une graduation, il y a plein d'accommodations avec la réalité, il y a toute la banalité du mal, si vous voulez, au quotidien. Et qui est très importante à comprendre. Et on a beaucoup d'exemples dans le cours où on essaye de leur faire comprendre que on peut très facilement, justement, dans ces habitudes, dans ces automatismes, dans ces procédures que tu mentionnais, Philippe, tomber là-dedans. Et donc, il faut en permanence être dans un processus actif de réflexion sur la démarche. Et puis, accepter la complexité sans la prôner. Alors, elle n'est pas un gage de solidité intellectuelle. La pensée déductive simple reste un puissant outil, mais justement, comprendre à chaque fois que tout s'inscrit dans un cadre, avec des points de vue, dans une controverse, et que c'est très important, que ça fait partie de la démarche elle-même. Et puis quelques objectifs individuels aussi pour nous, et les aider aussi à prendre du recul vis-à-vis de ses propres conceptions, illusions et préjugés de la connaissance scientifique elle-même, comment penser contre, y compris contre soi-même, et quelque part quelque chose qui est déstabilisant pour eux aussi, on leur demande de penser contre nous. Les enseignants, c'est-à-dire que des fois, dans certains cours, et alors je pense à chaque fois, il y a une des séances où je leur parle d'influence du comportement, d'expérience sur la conformité, la soumission à l'autorité et autres, et où je sais que je m'emporte, et puis je les vois, j'ai l'impression qu'il y a des moments où ils boivent mes paroles, et dans ces moments-là, j'essaye de m'arrêter et de leur dire, mais attention, soyez critique aussi vis-à-vis de ce que je vous dis. Moi, j'ai une façon de voir les choses, j'ai un message que je veux vous faire passer, j'ai préparé mon cours en sélectionnant des informations, peut-être que j'ai trié pour simplifier, pour aller faire passer le message que je veux faire passer, mais soyez aussi critique vis-à-vis de ça. Et quelque part, les premières fois où on leur dit ça, on a l'impression qu'ils sont complètement déstabilisés parce qu'ils ont rarement l'habitude d'être confrontés à ça. Et en fait, assez rapidement, on se rend compte qu'ils jouent le jeu, ils le comprennent, et du coup, ça suscite davantage d'interventions de leur part. Et des fois même, ils essayent de nous attaquer, mais parfois ça marche pas. Mais au moins, on est dans cet échange, et ça, c'est génial. Enfin, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on aime beaucoup voir émerger chez eux. Et alors, il y a un objectif de les aider à nourrir leur cursus universitaire de nouvelles ambitions, une vision plus large de ce que signifie une connaissance ou une compétence en sciences, et se préparer à participer au débat démocratique. Alors dans la pratique, c'est un enseignement dans le cadre, donc je vous l'ai mentionné, des ateliers de recherche encadrés pour tous les étudiants en licence 1 à Sorbonne Université depuis cette année, mais au départ, nous, on l'a fait dans le cadre de l'Université Pierre et Marie Curie, c'est à Jussieu, donc c'est la faculté des sciences et d'ingénierie de l'actuelle Sorbonne Université. Au départ, il y a eu des évolutions, on fonctionnait avec 32 étudiants, puis on a réussi à convaincre d'autres collègues, d'autres disciplines en biologie, et philosophie des sciences de venir faire une deuxième partie de l'atelier. Donc on a 64 étudiants, 14 séances de 3 heures, des cours interactifs, et puis des ateliers de recherche et de suivi de projets. Donc toutes les semaines, on leur demande d'avancer dans leur propre recherche, de nous faire part de ce qu'ils ont trouvé, des questions qui se posent, et d'essayer de les guider, et en même temps de leur dire que le but, c'est pas juste qu'ils répètent notre vision des choses sur un sujet. Donc on choisit aussi des sujets sur lesquels on connaît pas assez, et on leur demande de nous surprendre, de nous contredire, et surtout de ne pas rester en superficialité, aller juste, encore une fois, je reprends cet exemple, mais chercher quelques petits trucs sur Wikipédia et puis nous sortir ça comme ça. Donc il y a une évaluation tripartite de l'activité, la démarche, l'auto-apprentissage, les restitutions orales et écrites, et les étudiants comme les enseignants donc travaillent en binôme, et donc nous-mêmes on est dans une complémentarité au niveau des disciplines. Alors la première partie, c'est celle de Frédéric.
Oui, donc alors cette première partie, en fait, elle a plusieurs objectifs, mais le principal, c'est de créer en fait une base saine et claire aux études, de connaissances, de compétences aux étudiants à travers la démarche scientifique qui vont leur permettre de passer du côté, on va dire, de l'apprentissage de l'esprit critique, de penser contre soi-même, ces mots dont on a parlé, désobéir. Ça peut être une catastrophe si on ne fait pas ça, justement, si on ne construit pas ça sur des bases saines. Et du coup, on se rend compte qu'on a quand même face à nous des étudiants qui ne savent tout simplement pas définir déterminer une différence entre eux. Une connaissance scientifique et une croyance, ou savoir identifier ce qui est de l'ordre tout simplement du religieux, de ce qui est de l'ordre du scientifique. Ça peut paraître étonnant, mais c'est vraiment, dans une majorité des cas, le niveau des étudiants que l'on rencontre aujourd'hui face à nous. Donc, je dirais qu'il faut les préparer. Et dans ce cadre-là, on utilise deux outils. L'épistémologie, d'abord. On leur explique, donc, à travers ça, quels sont les courants de pensée sur la grande question de qu'est-ce qu'une connaissance scientifique. On voit que ce n'est pas simple d'y répondre, mais au moins, on voit que au fil du temps, en fait, les gens se sont toujours posé cette question. Et à travers ce cheminement, on a une meilleure idée de ce qui, au moins, le différencie d'une croyance ou d'une idéologie. Si on ne sait pas le définir, au moins on sait le différencier. Et dans un deuxième temps, on l'illustre à travers l'histoire des sciences. Alors moi, par exemple, j'ai parlé cette année de pression, l'histoire de la pression, c'est-à-dire l'histoire de la thermodynamique, parce que je suis physicien. C'est intéressant parce que ça commence avec l'histoire du vide. La nature a horreur du vide, Aristote. Ça, c'est un paradigme, justement. C'est une connaissance scientifique qui a perduré pendant plusieurs siècles pour plusieurs raisons. Comment ça a été déconstruit? Qu'est-ce qui a été proposé à la place? Sur quel terreau on a pu construire de nouvelles connaissances et une nouvelle science au XVIe et surtout au XVIIe siècle? Tout ça, on en parle. Et du coup, ils voient que la science, c'est la vie. C'est en perpétuelle évolution, en perpétuelle transformation, que cette transformation n'a de sens que s'il y a controverse. Et à partir de là, à partir de ces bases-là, on peut revenir à ce qui les intéresse quand même, comment se prémunir des fake news, etc. Les étudiants viennent aussi pour ça, parce qu'ils ont envie d'acquérir de l'esprit critique. Et je passe la main après, ensuite, à Mehdi, qui peut continuer.
Oui, donc la deuxième partie, c'est vraiment examiner en partie le rôle de connaissances scientifiques, dans ce cas particulier en société, à la fois comment elles peuvent être utilisées dans la société, à la fois comment aussi on peut avoir une démarche scientifique pour évaluer l'effet sur la société de certaines applications, de certaines institutions, certaines entreprises. Et puis à garder un esprit critique. Et finalement, il y a un côté réflexif parce que donc moi, ma formation, enfin mes recherches sont en sciences cognitives et donc je leur parle de plein de choses sur le cerveau, les comportements, nos biais, nos automatismes. Et il y a aussi un côté pour les citoyens qu'ils sont, que nous sommes tous, que je suis, voilà, d'être critique vis-à-vis de la façon dont on perçoit le monde, on le pense, on agit. Pour être un citoyen plus, quelque part, responsable. Donc, à se former une méthode d'autodéfense intellectuelle face aux messages qui peuvent être reçus dans le monde, qui nous entourent, et aussi bien les messages d'information, publicité, politique, religion, même si c'est des questions de religion, on essaye d'éviter de rentrer dedans directement. Mais il y a tout, par exemple une question, à un moment, sur le paranormal, en suivant un peu les travaux d'Henri Brock et du courant zététique. Ou d'ailleurs, une petite anecdote sur un groupe qui avait choisi de faire donc il a choisi un sujet sur lequel travailler au cours de l'année qui était le paranormal, est-il une science? Voilà, on posait les questions comme ça, donc après il fallait définir ce que c'est une science, ce que c'est le paranormal. Et c'était vraiment intéressant parce que c'est un binôme qui en début d'année a senti vite qu'il pouvait se permettre de nous poser la question, de nous dire mais est-ce que c'est possible qu'à la fin la conclusion qu'on arrive c'est oui, c'en est une. Et donc on leur dit mais absolument, bien sûr, mais du moment que vous nous convainquez, si vous vraiment vous êtes dans une démarche, toute conclusion est possible, il faut juste la construire et rigoureusement. Et alors ça a été très beau parce qu'on a vu toute l'évolution au cours de l'année, puis à la fin ils ont fait une présentation complètement à charge contre le paranormal, presque trop à charge par rapport à ce qu'on a, mais voilà, c'est dans cette dynamique d'évolution. Et donc, il y a toute une partie du cours qui est par exemple sur la perception, les illusions cognitives, comprendre que la réalité, ce qu'on perçoit, c'est pas forcément qu'il y a une réalité qui est là, qui nous préexiste, mais que c'est tout un processus dynamique, que le cerveau reconstruit une partie des choses en fonction des émotions, du contexte, et que tout ce processus-là, à partir du moment où le cerveau a développé des automatismes et qu'ils ont pu être sélectionnés au cours de l'évolution pour nous aider à survivre, ça peut aussi nous rendre vulnérables en fait, dans notre perception, être influencé, notre cerveau nous joue des tours. Tout plein de choses sur le langage, la manipulation du langage, la formulation des énoncés, comment elle peut avoir un effet sur la compréhension des choses. Et donc on discute à la fois je leur montre des exemples d'expériences scientifiques, de connaissances qu'on a à l'heure actuelle en sciences cognitives sur ces effets-là, et en même temps de comment on peut, qu'est-ce qu'elles peuvent être les impacts sur ce qui peut se produire ensuite dans la société. Et en fonction du canal de transmission, presse, télévision, internet, du domaine, économie, science, comment notre cerveau interprète les messages reçus et impose des contraintes sur la façon de réagir à ces messages, donc illusion perceptive, mais au niveau des actions, manipulation du comportement, voilà. Et donc il y a tout ce travail en autonomie donc vous avanciez déjà et sur lesquels on les encadre. Et on a ici, vous voyez à droite, des exemples de sujets en fait qu'on leur propose. Et peut-être moi j'avais envie sur, et puis après tu compléteras peut-être, mais pour terminer, ouais, d'accord, de donner alors juste deux anecdotes de belles choses qui pour moi sont produites. Par exemple, c'est par plusieurs groupes s'étaient posé des questions sur science et guerre et comment des scientifiques ont pu prendre la décision de contribuer par exemple à l'arme atomique ou au gaz moutarde et autres. Et donc ils ont fait toute une recherche et on s'est posé la question de... ils se sont rendus compte, et à travers leur recherche, ça retranscrit bien que une partie de ces scientifiques ont pu regretter leur choix après. Et bien que certains exemples de ces scientifiques étaient très bien formés, avaient même fait des cursus de philosophie à côté, et que ça n'empêchait pas éventuellement de prendre une décision de la part de ces scientifiques qui puissent regretter après. Donc, on soulève la question, sans apporter malheureusement de réponse, qu'est-ce qui pourrait prémunir finalement de faire ce type de choix en tant que scientifique et de le regretter après. Bon, voilà, on pourra rediscuter de plein d'autres exemples de projets, mais... Merci.
Voilà, et on termine cet exposé avec la phrase qui termine ses enseignements. Le premier devoir d'un enseignant est de prévenir son public que tandis qu'il va raconter une histoire qu'il aime bien et qui sonne bien, ses auditeurs doivent se garder de s'y laisser prendre.